Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bonjour à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens. On se retrouve pour un nouvel épisode. On est heureux de vous accueillir. Je suis Benjamin et je suis accompagné, comme d'habitude, sans quoi ce podcast n'existerait pas, de mon cher cousin Maxime. Salut Maxime.
Salut, bonjour à tous.
Alors Maxime, aujourd'hui, je dois dire que je suis particulièrement heureux. Tu sais pourquoi ?
On va parler de bouquins.
Excellent, exactement. J'ai une belle pile de bouquins à côté de moi et puis je suis au téléphone avec mon cousin pour une discussion autour de livres. Donc il n'y a rien de mieux qui puisse exister de terrestre, on va dire. On peut dire ça comme ça, mais qui soit réjouissant pour l'âme. Donc c'est excellent. On va parler de bouquins et pas seulement de bouquins, mais de bons bouquins. C'est le titre de ce podcast, des bons bouquins pour 2021. Alors peut-être que vous dites, mais c'est parce que Benjamin et Maxime n'avaient aucune idée de podcast et du coup ils ont parlé de livres parce que c'est facile. Mais vous vous trompez grandement, chers amis, si vous pensez ça, peut-être qu'à moitié, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de bons livres qui sortent dans le milieu évangélique francophone. C'est vraiment encourageant de voir les bons livres qui sortent depuis quelques années maintenant, et il y en a beaucoup qui sortent. On n'a pas le temps de tous en parler sur nos blogs respectifs, donc Maxime sur Par la Foi, moi sur TPSG ou sur ma chaîne YouTube, etc. Donc là, on prend un temps d'arrêt et on va passer en revue plusieurs bouquins qui sont sortis les derniers mois ou qui vont sortir, ou qu'on a rencontré un peu les derniers mois. Et puis, on va en parler. Et donc, ça va être un peu comme un ping-pong, ce podcast. Donc, Maxime va se lancer, il va mentionner un livre, il va dire pourquoi il est super, machin, etc., pourquoi vous devriez le lire. Et ensuite, il va me renvoyer la balle, et puis je mentionnerai un livre, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas un épisode qui dure 2 heures. On vise 20 minutes, comme tous nos autres podcasts, plus ou moins. Mais voilà, c'est ça le fonctionnement qu'on va suivre. Ça te va comme ça, Max ?
Très bien.
Excellent. Et l'idée, c'est pas de dire que, voilà, on va mentionner plein de livres, vous devez tout lire, et vous n'êtes pas des vrais chrétiens si vous n'avez pas lu tout ça, loin de là, et si c'est l'idée qu'on transmet par cet épisode, mea culpa, et c'est vraiment pas ce qu'on veut, mais plutôt choisissez dans tout ce qu'on mentionne un livre, vous dites, ah tiens, ça, j'aimerais bien le lire, et ben vous lisez ce livre-là, vous vous lancez, puis vous lirez un autre après. Ok, alors Maxime, assez parlé pour l'intro, à toi de nous lancer, quel livre veux-tu nous présenter en premier ?
Ben en fait, c'est un livre que toi-même, tu m'avais présenté il y a plusieurs années quand il existait uniquement en anglais. C'est ABC de l'histoire de l'Église.
Yes.
Je crois que c'est écrit par 3 personnes, mais il y a au moins Ferguson dedans, Aikin et Joel Beakey.
Non, et... Ah ouais ? T'es sûr qu'il y a Aikin ? Ok.
Ouais, ça c'est sûr, il y a Aikin.
Ouais, il n'y a pas comment il s'appelle là. Attends, j'ai le lien ici. Ah oui, c'est ça, regarde. Ferguson, Beakey et Aikin, ouais. Pardon, exact. Tu avais raison.
Et en fait, c'était, je crois, une série de prédications à l'origine de Ferguson sur l'histoire de l'Église. Mais ça a fait vraiment un bon petit bouquin. Il fait moins de 100 pages. Il y a 20 chapitres, un par siècle. Et du coup, il y a à chaque fois une idée centrale par siècle, les personnages qui ont un peu marqué ce siècle, des anecdotes, mais surtout des leçons spirituelles qu'on peut tirer de l'histoire de l'Église à cette époque. Ce qu'on peut vraiment retenir de ces leçons, les belles choses que l'Église a accomplies, les moments où elle s'est fourvoyée dans sa tâche. Ouais, c'est vraiment un livre encourageant. Je suis en train de le relire en français avec mon épouse et je me souvenais pas qu'il était si bon. Et je pense vraiment que c'est bien parce qu'en français, on avait des trucs comme précis de l'histoire de l'Église qui sont un peu longs quand on veut, quand on est juste curieux, qu'on veut découvrir l'histoire de l'Église. Et on n'avait pas trop de trucs courts et percutants. Et celui-là fait vraiment bien la tâche. Si vous voulez pas vous lancer dans une grande étude de l'histoire de l'Église, mais avoir les idées, voilà, une idée par siècle et ne pas être perdu, c'est vraiment là qu'il faut commencer.
Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est pour ça que j'avais été trop encouragé quand j'avais découvert ce livre il y a, je sais plus, c'était en 2017, je pense, ça remonte. Hein. 2016-2017, je me souviens, je venais d'arriver à l'IBB, là, dans ma chambre à Bruxelles, et puis j'étais tombé sur ce livre, et je l'avais lu, et je m'étais dit, mais c'est juste trop bien, en moins de 100 pages, comme tu dis, et encore moins de 100 pages dans un format petit, hein, donc c'est vraiment un livre qui se lit, franchement, littéralement, en 1 heure ou 2 heures, si vous le lisez d'une traite, mais c'est 2-3 pages sur chaque siècle de l'histoire de l'Église. Et donc, ce qui est excellent, c'est que dans un temps court, bah, on a vraiment un survol et une compréhension générale de tout ce qui s'est passé les 20 derniers siècles. Alors, c'est pas exhaustif, bien sûr, hein, mais c'est excellent. Et ce que j'avais trouvé aussi super bien, c'est que c'est pas juste de l'histoire, voilà, raconter de l'histoire pour de l'histoire, mais si je me souviens bien, alors je l'ai pas relu en français depuis, à la fin de chaque chapitre, il essaye d'avoir une application contemporaine. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ?
Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est vraiment pas une liste de dates ou un livre ennuyeux dans le genre histoire. Ouais.
C'est ça. Et c'est ça le problème des fois avec des livres d'histoire, c'est juste que c'est voilà j'ai commencé à lire un livre d'histoire, enfin de voilà un livre chrétien, mais qui faisait de l'histoire il y a quelques mois ou quelques semaines, et c'était juste barbant, j'ai arrêté, je vais pas le mentionner, hein, mais j'ai arrêté parce que c'était juste de l'histoire pour de l'histoire, quoi. Mais là, c'est vraiment de l'histoire qui a pour but d'encourager, d'édifier. Et pour la petite histoire, c'est ça qui m'avait donné un peu l'idée de Soif de plus, entre autres, mais d'avoir vraiment un livre avec voilà, deux, trois pages sur chaque sujet et qui applique ce sujet à la vie des lecteurs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans Soif de plus. Ça, c'était juste le moyen de glisser une pub en passant.
Excellent. À ton
Voilà.
tour.
Yes, à mon tour. Alors, les amis, moi, à midi, c'était aussi un beau midi parce que j'ai reçu deux livres de la part de deux éditeurs. Peut-être je les mentionne les deux en même temps. Ça va, comme ça, je fais
Allez, ouais.
deux pour le coup d'un. Donc, j'ai reçu d'abord 7 mensonges sur le célibat de Sam Alberi, qui est coédité par BLF Éditions et JPC France. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vraiment un livre que j'ai envie de lire. Il y a peu de livres sur le célibat qui existent. En fait, j'ai reçu un email là, de mon ami Stéphane Capitaniou, qui a quelques jours, qui faisait de la pub de ce livre. Et il disait, mais en fait, on a soit un livre qui est assez académique, qui est récent, mais qui est bien, mais très académique, soit un livre qui est grand public, mais qui date d'il y a 20 ans, quoi. Donc, c'était le moment d'avoir quelque chose sur le célibat qui est actuel. Moi, en tant que célibataire, ça m'encourage vraiment de le lire et de voir ce que Sam Alberi, qui est lui-même célibataire, hein, dit sur ce sujet-là. Donc, 7 mensonges sur le célibat, j'ai parcouru le sommaire là et ça donne vraiment envie de le lire. Il a l'air bien écrit, facile à lire, bien mis en page. Bravo à BLF, tous leurs livres sont vraiment bien mis en page, autant au niveau de la couverture que de l'intérieur. Donc, ça,
Il y a quelques
c'est cool.
extraits qui ont été postés, je crois. Pardon, je te coupe.
Non, non,
Il y a
vas-y, vas-y,
quelques
ouais.
extraits qui ont été postés, je crois, sur Le Bon Combat. Et
Ouais.
ouais, c'est des bons extraits. Ça donne envie de lire le reste.
Ouais.
Si vous voulez jeter un œil et savoir un peu comment c'est écrit, de quoi ça parle.
Exactement. Ouais. Et je compte faire une vidéo probablement ou un truc Instagram sur ce livre dès que je l'aurai lu. Et l'autre livre que j'ai reçu à midi, c'est un livre que j'attendais vraiment dans ma boîte aux lettres, c'est Le Christ et ses bienfaits de Sinclair Ferguson. Et donc c'est un livre, je pense, plus théologique, mais qui a l'air excellent et qui j'ai vraiment hâte de le lire. Je ne vais pas trop m'avancer de parler du contenu parce que je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai même pas survolé. Mais on m'en a parlé, j'en ai entendu parler en beaucoup de bien, notamment de mon ami Daniel Anderson. Et donc j'avais vraiment hâte de le lire et je suis heureux qu'il soit disponible en français. Et ça, j'en ferai une vidéo sur YouTube, probablement voilà, mi-février, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez rester connecté. T'avais entendu parler, toi, Maxime, de ce livre ou pas plus que ça?
Rapidement, je sais que ça traite du rapport entre la loi et le chrétien,
C'est ça.
l'équilibre entre un légalisme et on s'en fiche de la loi,
Ouais,
et
c'est ça.
l'équilibre entre les deux. Et je sais que dans le monde anglo-saxon, c'est vraiment une référence, qu'il y a beaucoup de gens qui en disent du bien, donc je suis content que ça arrive en français.
Super, excellent. Alors Maxime, à toi, je te renvoie la balle de ping-pong. Je fais un smash, hop.
Bon, promis, je fais encore un livre d'histoire de l'Église, après c'est fini.
Ah
Ça s'appelle Les Fondateurs. C'est pas une sortie récente, mais c'est une lecture récente pour moi. C'est un livre qui est écrit dans le dos, c'est écrit à partir de 10 ans, mais j'ai plus de 20 ans et je me suis pas ennuyé en le lisant. Et en fait, si ça s'appelle Les Fondateurs, c'est parce que ça parle des pères de l'Église. Donc ils disent de l'an 30 à 550, donc ça re-raconte un peu les actes et ça fait la suite. Et c'est écrit de façon romancée, donc je pense que même des enfants pourraient s'y plaire si on leur raconte et qu'on leur explique un peu quelques termes, mais aussi des adultes, c'est vraiment bien écrit. En plus, il y a une suite, il y a 4 livres encore, donc ils ont fait vraiment toute l'histoire de l'Église. J'ai pas lu les suivants encore, je suis dans le deuxième, mais le premier est vraiment bon, il est exact historiquement, dans le sens où il y a plein de détails où ils ont été cherchés. Je vais pas vous lire des extraits parce que c'est un roman, donc ça nécessiterait de. Enfin, c'est romancé, donc ça nécessiterait de lire des grosses parties. Mais par exemple, on sait que Jérôme, c'était quelqu'un d'assez colérique et virulent dans ses écrits. Et là, ils l'ont présenté dans l'histoire, justement, comme quelqu'un de colérique avec ses amis, etc. Et donc, il y a des détails comme ça qui ne sont pas écrits, mais qu'ils ont retranscrits dans le récit un peu, et qui te font un peu sentir la vie dans leur contexte, quoi, des autres, des personnes qu'ils abordent. Donc, ça, c'est chouette.
Super,
Il
c'est
y
le
a
truc
aussi
que
des
tu m'as.
chapitres. Ouais.
Pardon, c'est le truc que tu m'avais montré là à Noël, c'est ça que tu étais en train de lire.
C'est ça, ouais.
Ouais, ça avait l'air
Donc, non
excellent ça.
seulement il y a des chapitres biographiques sur Justin, Cyprien, Athanase, Augustin, etc. Mais il y a aussi des questions qui sont traitées, des petits chapitres, qu'est-ce que l'Église primitive, un chapitre sur les persécutions, sur le culte, sur c'était quoi les credos, les conciles, etc. Comment la Bible nous est parvenue. Donc ouais, c'est vraiment pas mal, assez complet, un bon choix des personnages aussi, vraiment j'ai beaucoup aimé.
Super. Et donc ça, tu sais si on peut se les procurer encore aujourd'hui, c'est encore édité ou t'es juste
Ouais,
tombé ça là-dessus
je l'ai vu. On tape Les Fondateurs ou
Ok.
Chroniques d'Ecclésia
Super.
On vous mettra le lien sinon.
Ouais, on vous mettra tous les liens de tous les livres dont on parle. Ouais, c'est super. Excellent. Bah voilà, après avoir lu ABC l'histoire de l'Église, les amis, si vous prenez goût à l'histoire de l'Église, vous pouvez lire Les Fondateurs. On vous mettra tous les liens là des livres qu'on
Et là encore, c'est raconté comme un roman, donc ça sera pas relou à lire si vous n'êtes pas un gros fan d'histoire.
Trop bien. Excellent. Ok, alors.
À toi.
Yes. Le prochain livre dont j'aimerais vous parler, les amis, c'est Les coulisses de l'Évangile de prospérité, écrit par Kosti Inn. Donc Kosti Inn, c'est le neveu de Benny Inn. Vous avez probablement entendu parler de Benny Inn. C'est le monsieur qui fait tourner sa veste et tomber les gens en faisant tourner sa veste. Si vous n'avez pas entendu parler de lui, vous ratez rien, ne vous en faites pas. Mais c'est un des leaders, on pourrait dire, hein, actuels du mouvement de l'Évangile de la prospérité, de la théologie de la prospérité. Et donc son neveu, Kosti Inn, il a grandi dans ce milieu-là et il a quitté ce milieu-là. Il a découvert combien c'était un faux enseignement anti-biblique qui détournait et déformait le vrai évangile. Et il a cru et il s'est mis à suivre Jésus de manière sincère et authentique. Et donc il a écrit ce livre un peu sous forme de témoignage qui... Le titre est un peu trompeur parce que l'idée, c'est pas de montrer les coulisses de l'évangile de prospérité en racontant plein d'anecdotes de comment ça se passe, etc. En anglais, le titre, c'est God, Greed and the Gospel. Je sais pas comment on traduirait ça bien, mais c'est Dieu, la cupidité ou l'avidité.
Dieu, l'avarice et l'évangile.
Ouais, l'avarice, voilà, ouais. Excellent, excellent. Ça fait un peu Louis de Funès ça, pour ceux qui connaissent Ava. Bref, ça, c'est une référence pour ma famille. Donc les coulisses de l'évangile de prospérité, donc en gros il raconte comment, enfin il montre, oui par un témoignage c'est vrai, donc il raconte d'où il a grandi etc, mais comment il est sorti de cela et comment il a découvert le vrai évangile. Et il est vraiment excellent à lire pour mieux comprendre comment ça se passe dans ce milieu-là, pour mieux comprendre les enjeux quand on grandit dans ce milieu-là, quand on a connu que cette théologie-là, pour donner à des gens qui sont aux emprises de cette théologie-là, pour les aider à découvrir le vrai évangile, ou des gens qui se posent des questions par rapport à ça, il est vraiment, vraiment super. Je sais pas si tu l'as feuilleté ou tu as vu passer, Maxime, toi, mais...
Non, vraiment, j'ai vu que peut-être des extraits aussi sur reveniralevangile.com et est-ce que tu m'en as dit. Okay. Et moi, j'avais surtout entendu Kosti Inn parler dans American Gospel.
Ah oui.
Le super reportage dont on devrait peut-être parler d'ailleurs dans un podcast. Mais qui est, il intervient à un moment justement sur l'évangile de prospérité. Donc, en tout cas, c'est un témoignage hyper encourageant que le sien de partir de si loin et d'aller si loin aussi dans la vérité, c'est vraiment encourageant.
Ouais, effectivement. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire un épisode sur American Gospel, à voir pour la suite. Excellent. Alors, à toi, Maxime, de nous partager un petit ou un gros livre.
Ouais, moi, c'est un livre qui est tout neuf aussi, mais qu'on m'a prêté récemment, là, un membre de mon église. C'est Peter Williams, « Les évangiles sont-ils fiables ?» Alors Peter Williams, je l'avais rencontré pas physiquement, hein, mais son nom et son œuvre, je l'avais rencontré la première fois sur Tout pour sa gloire. Ils ont sous-titré une de ses excellentes conférences sur le même sujet,
oui,
la fiabilité des évangiles. Et c'est doit être le gars que je connais qui a le débit de parole le plus rapide. En une heure, il met une quantité d'informations assez incroyable. Et du coup, j'étais un peu frustré à la fin de sa conférence de pas avoir tout ça sur le papier avec des sources, des références, etc. Et je suis bien content là de l'avoir. En plus, ils ont mis des beaux tableaux, etc. Donc, comment expliquer en quoi ce livre est intéressant ? Je pense qu'il apporte des choses qui se trouvaient dans aucun livre en français jusqu'à maintenant. Et ça va être des comparaisons des évangiles entre eux, vraiment des détails étonnants qui montrent que c'est complètement invraisemblable que les évangélistes, ceux qui ont écrit les évangiles, se soient mis d'accord pour écrire les évangiles de telle sorte que ça tombe comme ça. Et qu'au final, la meilleure conclusion possible, c'est qu'ils sont en train de raconter de l'histoire, en fait. Ils n'ont pas inventé ce qu'ils sont en train de dire. Mmh. Et c'est aussi des détails parfois, des coïncidences, en fait, troublantes, d'accord, entre les évangiles et les sources juives, etc. Il a été étudié la géographie des lieux. Est-ce que les noms des villes mentionnées par les évangélistes sont exacts ? Est-ce que quand il dit que Jésus monte dans une ville, est-ce qu'effectivement on montait pour y aller ? Ouais. Est-ce qu'elle se trouvait près de la mer comme ils le décrivent, etc. Est-ce qu'il y avait bien de l'herbe verte quand ils disent qu'il y avait de l'herbe verte lors de la multiplication des pains ? Est-ce que les noms des apôtres étaient crédibles avec ce qu'on sait sur les noms qu'on trouvait à cette époque ? Est-ce qu'il y avait bien des sycomores dans la ville où il y avait Zachée ? Donc plein de détails comme ça. C'est une banque vraiment de ressources, et puis pour ceux qui veulent creuser, il y a des notes de bas de page avec plein de références vers d'autres auteurs qui vont plus loin dans des détails. Donc je pense qu'on termine ce livre avec vraiment envie de relire les évangiles dans leurs petits détails qui sont en fait exacts dans des choses incroyables, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, non, c'est trop bien. Ça me quand tu mentionnais tout ça, là, ça me revenait parce que j'avais aussi vu la conférence. Bah, c'était probablement toi qui me l'avais envoyé. Ça remonte, hein, je pense, il y a quelques années. C'était à l'époque où on était jeunes et fous, là. et qu'on regardait tout ce qui passait sous la main. Mais ouais, elle était vraiment trop bien et ça montrait vraiment que les évangiles étaient fiables et que, comme tu dis, c'était juste pourquoi est-ce que c'est aussi précis? Juste parce que c'est de l'histoire et ils ont raconté les choses comme ça s'est passé. Donc, excellent. Merci beaucoup aux éditions Clés
Et si
d'avoir
ça peut
traduit
te...
ce livre. Ouais, vas-y.
Ouais, je disais, si ça peut te donner envie de le lire, même si tu as déjà vu la conférence, il y a des informations en plus vraiment
Ok.
où il va recreuser certaines histoires, le caractère de Marthe et de Marie, et ce qu'en disent les différents évangiles, et est-ce que c'est concordant et tout. Donc il y en a encore plus que dans sa conférence.
Trop bien, excellent. Non, j'ai vraiment envie de le lire celui-là. On me l'avait offert en fait en anglais. J'ai toujours pas lu et entre-temps il est sorti en français, donc voilà. Mais
Et
c'est
il
le
n'est pas si
signe.
long.
Ouais, c'est ça. Il a pas l'air long et ouais. Non, ça vaut vraiment le coup de lire un livre là-dessus. Ouais. Excellent.
À ton tour.
Yes, alors les amis, le prochain livre dont j'aimerais vous parler, c'est La guerre des spectacles, écrit par Tony Renke. Il est sorti déjà il y a quelques mois, mais pas tant que ça, je pense que c'était, je sais pas, octobre, novembre, si je me souviens bien, un truc comme ça. Il y avait, donc c'est par... attendez. Ouais, par Cruciforme, pardon, j'avais le livre en anglais là. Mais c'est Cruciforme en français qui l'a sorti. Ils avaient fait une offre spéciale où ils l'offraient à 2 €. Je sais plus combien premier exemplaire et tout était parti, c'était excellent. Mais il est vraiment bien, surtout pour nous les jeunes et voilà le public là que vous êtes de la Rébellion, parce que ça montre vraiment comment on est dans un monde qui est saturé de médias, saturé d'écrans, etc. Et comment on a le danger d'être moins émerveillé par Christ qu'on devrait l'être en raison de tout ça. Et il montre comment dans cette guerre de spectacle qu'on a devant les yeux, le plus beau spectacle qu'il y ait, c'est la croix de Jésus. Et c'est ce que Christ a fait il y a plus de 2000 ans. Et donc il est court à lire, il est vraiment bien écrit, il y a des belles punchlines. Donc j'ai beaucoup apprécié. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube là-dessus, donc vous pouvez aller voir ça aussi si vous voulez avoir l'eau à la bouche avant de lire le livre. Mais sinon, La guerre des spectacles par Tony Renke. Et voilà. T'avais vu passer toi aussi, Max, ce livre?
Ouais, c'est un des anciens de mon église qui me l'avait recommandé, il l'a lu aussi et bien
Trop bien.
apprécié. Ouais.
Trop bien. Excellent. Est-ce que tu en as encore, Maxime, sous le coude là?
Bon, on peut en faire un chacun
Ouais, ça
encore?
va, on peut continuer, hein, il n'y a pas de souci. Je savais juste plus si tu en avais prévu d'autres ou
Ouais.
pas. Vas-y, ouais.
Ouais, j'en ai plutôt des livres là que j'ai hâte de lire, qui vont sortir. Alors évidemment, je pourrais pas en dire autant que ceux que j'ai lus, mais c'est ceux qui vont sortir. Je sais que Kevin DeYoung a écrit quelques méditations, réflexions et commentaires sur un texte qu'on appelle le Catéchisme de Heidelberg. Et il va sortir et il va être traduit en français par Publication Chrétienne. Le Catéchisme de Heidelberg, je pense que Ben sera d'accord avec moi, c'est un des plus beaux textes de l'histoire de l'Église. Vraiment, c'est de la théologie profonde et c'est écrit. Voilà, c'était fait pour être mémorisé par des enfants, donc c'est simple, mais c'est beau, c'est profond. Et je suis vraiment content de pouvoir, pas simplement avoir ce texte, mais d'avoir des commentaires qui sortent en français. Un catéchisme, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est simplement la foi chrétienne, les bases de la foi, présentées sous forme de questions et de réponses. Avec la première question du catéchisme qui est très célèbre, hein, c'est quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Et une réponse qui nous dit que notre unique assurance dans la vie comme dans la mort, c'est d'appartenir à Jésus-Christ, corps et âme. Donc je vous invite vraiment à le lire, il se trouve sur internet, le catéchisme de Heidelberg, mais le commentaire, là, ça me donne vraiment envie de voir comment, en quelques pages, Kevin DeYoung a pu traiter ça.
Trop bien, excellent. Mais en parlant de Kevin DeYoung, je mentionne un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Alors j'essaie de retrouver le titre en français. Voilà, en français c'est La grâce définie et défendue. Donc c'est aussi par Kevin DeYoung et c'est aussi, alors c'est pas basé sur un catéchisme, mais c'est basé ce coup-ci sur une confession de foi, plus ou moins on pourrait dire. C'est sur les canons de Dordrecht qui ont été écrits au XVIIe siècle. Et c'est vraiment axé sur la grâce souveraine de Dieu pour montrer ce que ça signifie, pourquoi c'est important. Et j'ai trouvé vraiment ce livre bienfaisant, en lecture, une bonne lecture théologique à faire, qui est courte, qui est accessible, qui n'est pas trop compliquée, qui plane pas trop et qui met en avant la grâce de Dieu. Combien cette grâce est imméritée et pour nous chrétiens qui avons tendance à nous habituer à la grâce, à prendre ça comme quelque chose d'acquis, j'ai trouvé que c'était un bon rappel. d'autres livres qui sortent là et
Ouais,
que
c'est chouette
t'as
qu'ils
vraiment
fassent
hâte.
des...
Ouais, pardon, vas-y, vas-y.
Ouais. C'est chouette qu'ils fassent des commentaires un peu qui... Enfin, des livres qui réactualisent ces vieux documents qu'on n'aura pas forcément envie de lire nous-mêmes et fouiller dans les archives de l'Église, quoi.
Ouais.
Mais ouais, remis au goût du jour, c'est vraiment chouette.
Ouais, excellent. D'autres livres que tu voulais mentionner ou tu dis mince si on n'a pas parlé de ça,
Ouais.
c'est...
Ouais, j'en ai un en tête, c'est Choisi par Dieu de Sproul. Pareil, il était disponible en anglais jusqu'à maintenant. C'était un de ses livres les plus célèbres avec La Sainteté de Dieu qui est aussi sorti récemment. Et en fait, c'est Sproul sur, donc le théologien américain, sur la doctrine de l'élection, sur qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible dit qu'on est choisi, qu'on est élu. Et j'en ai entendu de grands biens, pareil, dans la version anglaise, donc j'espère que qu'en français, il aura les mêmes effets sur l'Église, que ça va encourager beaucoup de gens.
Ouais, trop bien, ouais. Il sort dans quelques mois, je pense, celui-là, et c'est vrai que j'ai aussi hâte de le lire. Et je mentionne pour terminer un livre que j'ai lu aussi récemment et qui est sorti il y a pas très longtemps. Plaidoyer pour la véritable liberté, égalité et fraternité. C'est écrit par Edward Nelson. Vous avez probablement entendu parler. C'est un pasteur qui était à Paris, qui est décédé à l'été 2020 assez subitement et qui avait un projet de livre. Hein, depuis pas mal de temps, il préparait ce livre et le livre était prêt. Et donc, il a été publié à titre posthume. C'est un livre qui présente l'Évangile et j'ai vraiment trouvé la lecture très utile et intéressante dans le sens où c'est une présentation de l'Évangile qui est très adaptée au contexte français et en particulier au contexte parisien. Peut-être à des amis que vous avez qui sont catholiques ou qui voilà, se posent des questions par rapport à la spiritualité et la foi chrétienne. Il se lit très facilement et il reprend la devise française « Liberté, égalité, fraternité ». En montrant comment c'est seulement l'évangile qui apporte la pleine réalisation de ces valeurs. Donc j'ai beaucoup apprécié et je le recommande à offrir à vos amis qui pourraient correspondre à ce type de livre.
Excellent.
Voilà. Alors les amis, ça c'était notre épisode sur les livres. Je pense que c'était pas le dernier. On avait fait un épisode en fait il y a quelques années, presque maintenant, je pense, sur pourquoi est-ce qu'on aimait lire. Vous pouvez aller réécouter ça, j'ai aucune idée de ce qu'on disait, mais on expliquait pourquoi on aimait lire. Et ben ça n'a pas changé. Même si, il faut le dire, c'est un peu plus compliqué pour nous de lire Maxime avec sa vie de papa, de mari maintenant, et puis avec d'autres activités, j'imagine c'est un rythme différent pour lire. Donc voilà. Mais bon, content de voir que tu n'as pas perdu ta passion pour la lecture. Tu as un dernier mot, un conseil à donner à ceux qui nous suivent, qui nous écoutent? Une dernière parole de sagesse?
Ah, j'espère que cette passion mourra avec moi, mais pas avant.
Excellent.
Non, de conseil, je pense, ouais, comme tu disais au début, de commencer humble, quoi, de pas se dire, ouais, je vais faire toute la liste là, mais de, voilà, il y en a un peut-être où le titre ou la description vous a accroché, bah, prenez-en un simplement, et j'espère qu'avec la lecture, voilà, ça va, le goût va prendre. Il y a un article récent, je crois que c'est de Raphaël Charrier, sur Tout pour sa gloire, qui explique que en fait, on lit quand on est passionné et parce qu'on se dit parfois, ouais, moi je suis pas un grand lecteur et je pense que Ben et moi, on pouvait dire ça à une époque. Franchement, au collège, moi je lisais rien. Et c'est vraiment parce que j'ai commencé à trouver des livres sur des sujets qui m'intéressent. Et en fait, c'est toujours ça. Il y a peu de gens qui aiment lire pour lire. On aime bien lire quand
C'est
on aime
ça.
ce qui est dit, soit parce que c'est bien écrit, soit parce que le sujet nous intéresse. Et vraiment, s'il y a un livre qui vous intéresse, ne vous arrêtez pas à l'idée, ah oui, mais je suis pas un lecteur. Le goût va venir si le sujet vous intéresse.
Excellent. Belle parole pour terminer. On mettra l'article de Raphaël Charrier là en description.
Ouais.
C'est sur Tout pour sa gloire. Super les amis, bah, ça faisait tellement du bien de retrouver ces podcasts. Alors normalement à la base on en faisait deux par mois, le 10 et le 25 de chaque mois. Et puis il y a eu Colin, le responsable de la REB, donc c'est le podcast qui est diffusé sur la REB, c'est le podcast de la REB. Donc Colin c'est notre boss on pourrait dire. Il est venu nous voir gentiment et puis il nous a fait comprendre qu'en gros il nous a dit gentiment les gars... Vous faites, enfin, vaut mieux faire un seul épisode par mois et le faire bien et le faire pour de vrai que d'en faire deux par mois et de jamais les faire. Parce que c'est vrai qu'on avait voilà, beaucoup de mois où on n'en faisait qu'un par mois, voire zéro. Donc, on a pris la décision sous la contrainte et alors que Colin nous faisait une clé de bras de faire un seul épisode par mois. Non, je rigole, mais c'est vraiment la bonne décision, je pense. On fait un par mois maintenant, donc plus que le 10 de chaque mois, on sera publié sur la REB et vous aurez votre podcast préféré. De la Rébellion, qui est le seul d'ailleurs,
Voilà,
les
c'est
cousins
comme pour
théologiens.
les le seul, ouais. C'est comme pour les livres, faut pas se lancer dans trop gros, on va viser humble, un par mois.
Exactement, exactement. Ok les amis, bah, bonne après-midi Maxime, et pour vous qui écoutez, bonne, je sais pas, soirée, matinée, nuit, ce que vous voulez, si c'est bonne nuit, allez dormir et arrêtez d'écouter les podcasts.
À
Et puis à très bientôt.
bientôt.